terre elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle lui.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars, it would be the greatest adventure ever.
Et donc nous allons commencer cette chronique astro avec les actus. Et Michel, encore un accident sur la Lune.
Voilà, la dernière fois j'avais parlé de la sonde américaine Peregrine, lancée le 8 janvier, qui n'a jamais réussi à atteindre la Lune et s'est consumée dans l'atmosphère 10 jours plus tard. Puis de la sonde lancée le 7 septembre par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui avait réussi à l'unir le 19 janvier, mais basculé sur le côté, comme le montrait une image prise par un de ses mini-rovers, une posture qui ne permettait pas à ses panneaux solaires de l'alimenter correctement en énergie, excepté pour la courte période où la position du soleil vers l'ouest dans le ciel permettait de les éclairer suffisamment, donc seulement 3 jours avant d'être plongé dans la nuit lunaire, où la température descend jusqu'à moins 170 degrés, ce qui est très dommageable pour l'électronique embarquée. Slim n'a donc pu transmettre que quelques images prises par sa caméra, bien reconnaissables à leur horizon bizarrement incliné, ainsi que des mesures effectuées par ses instruments, avant de se rendormir le 31 janvier dernier. Depuis lundi, on sait que Slim a survécu à la nuit lunaire, ses panneaux solaires viennent tout juste d'être de nouveau éclairés et la sonde s'est réveillée lundi et recommence à communiquer avec la Terre. Cette série de ratés complets ou partiels n'est pas terminée, car elle continue avec une autre sonde américaine, IM-1, soit Intuitive Machines 1, du nom de la compagnie privée qui l'a conçue et construite, baptisée aussi Odeus. On est une fois de plus dans le cadre de ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire la sous-traitance de services spatiaux à des sociétés privées par la NASA. Comme Peregrine, cette mission entre dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services, ou CLPS, de la NASA, c'est-à-dire des services commerciaux de transport vers la Lune, des sondes privées susceptibles d'emporter certains instruments de l'agence américaine jusqu'à la surface lunaire, au tarif quand même de 1 200 000 dollars le kilo. Ces missions exploratoires doivent préparer le retour des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis, d'où le choix d'un site proche du pôle sud, lunaire, pour IM-1, région où l'on pense pouvoir installer à terme une base permanente. Cette sonde d'une masse de presque 2 tonnes a une forme très verticale, aux proportions analogues à celles d'une ancienne cabine téléphonique, mais d'environ 4 mètres de hauteur. La plus grosse partie de sa masse est constituée des carburants liquides, alimentant son moteur pour freiner sa descente vers le sol lunaire et la poser en douceur. Sa charge utile n'est que de 130 kg, comprenant 6 instruments de la NASA, dont un LIDAR, mesurant avec précision par laser l'altitude et la vitesse pendant la descente, et des charges commerciales, dont un échantillon de tissu isolant de la société Columbia pour le tester dans l'environnement lunaire, ou une œuvre de l'artiste Jeff Koons, inspirée par les phases de la Lune, qu'il mettra en vente à prix d'or, comme toujours avec lui, sous forme de certificats numériques, les fameux NFT.
Mais du coup, la mission n'a pas réussi.
Alors en effet, IM-1 a bien été lancé de Cap Canaveral en Floride le 15 février dernier par une fusée Falcon 9 de la société privée SpaceX. Alors, je m'autorise une petite parenthèse. Ce même jour, SpaceX a battu son précédent record en réussissant 2 autres tirs de Falcon 9 avec une mission militaire pour l'US Air Force depuis un autre pas de tir de Cap Canaveral et une nouvelle grappe de 22 satellites Starlink depuis la base militaire de Vandenberg en Californie. Avec 3 tirs en 24 heures, on voit à quel point cette société a industrialisé le domaine spatial, comme je l'avais évoqué la dernière fois. Mais revenons à IM-1 qui a été très rapidement propulsé sur sa trajectoire lunaire. Une stratégie totalement opposée à celle de la JAXA qui avait adopté pour Slim une méthode moins coûteuse en énergie au lancement mais qui se paie par un délai beaucoup plus long pour rejoindre la Lune. C'est donc seulement 6 jours plus tard, le 21 février, que IM-1 se plaçait en orbite lunaire pour effectuer en un jour 12 révolutions d'environ 2 heures avant de tenter la descente le 22 février. Avec le décalage horaire, c'est presque à minuit et demi en France que s'est terminée cette phase critique de l'opération qu'on pouvait suivre en direct sur les sites de la NASA ou d'Intuitive Machines, comme je l'ai fait. La descente semblait s'être déroulée à peu près correctement, excepté la défaillance du système de laser pour se repérer, qui a dû être remplacé par le LIDAR de la NASA. On sait aujourd'hui que c'est dû à une erreur humaine, car une sécurité du dispositif aurait dû être retirée pendant un test au sol qui a été annulé. Ensuite, on a longtemps attendu les premières images de la surface lunaire et la vidéo de l'alunissage, car une sorte de caméra volante, larguée juste avant, devait filmer l'événement de l'extérieur. La communication avec la Terre, qui était censée commencer entre 15 secondes et 2 minutes après l'atterrissage, était difficile à établir. Le responsable de vol a fini par annoncer qu'un signal était capté, mais bien plus faible que prévu, alors que les données indiquaient que la sonde s'était bien posée en douceur, déclenchant les habituels applaudissements de l'équipe et des spectateurs, un discours encourageant du PDG et quelques communiqués de presse avec force cocorico, si j'ose dire, puisque les USA avaient de nouveau réussi à se poser sur la Lune plus de 50 ans après la dernière mission Apollo 17 de 1972. Un peu plus de modestie n'aurait pas été déplacée, car le lendemain, le PDG annonçait que les données reçues semblaient indiquer que l'atterrisseur avait accroché l'une de ses 6 pattes sur le sol et avait basculé sur le côté, mais pas complètement, car probablement appuyé sur une roche. Cela pourrait expliquer la mauvaise orientation de ses antennes pour établir une communication efficace vers la Terre. Et c'est seulement lundi que 2 images de la surface lunaire ont pu être publiées par la société, l'une prise pendant la descente, l'autre depuis la sonde posée, tandis que la NASA diffusait une image prise par LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, où l'on voit IM-1 posé à environ 1,5 km de sa cible idéale. Malgré ses batteries, avec ses panneaux solaires mal orientés, la mission prévue d'une dizaine de jours, pendant une journée lunaire, devrait être raccourcie à seulement 4 ou 5.
Mais pourquoi est-il si difficile de apposer aujourd'hui des engins sur la Lune alors qu'on le faisait très facilement dans les années 60 et 70 ?
Alors, il ne faut pas idéaliser les missions spatiales lunaires des décennies 60-70, car le succès historique d'Apollo a fait oublier les très nombreux échecs qui ont ponctué les tentatives d'alunissage. En douceur, grosso modo, 1 fois sur 2. À première vue, on pourrait voir dans les déboires récents une certaine perte de savoir-faire dans les missions spatiales, mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté des tentatives actuelles. Pour commencer, il est difficile de se poser en douceur sur la Lune, car il n'y a pas d'atmosphère permettant de se freiner avec un bouclier thermique et des parachutes, comme on le fait pour Mars ou lors d'un retour sur Terre. Il faut donc utiliser des moteurs de freinage nécessitant un pilotage très fin pour maintenir la sonde dans la bonne position et maîtriser la vitesse de descente. Ensuite, il faut utiliser cette courte période de vol contrôlé pour trouver un site correct, suffisamment plat et sans rocher pour limiter les risques d'accrochage ou de bascule. Cette opération est déjà périlleuse quand il y a un pilote à bord, comme Armstrong pour Apollo 11, qui a prolongé le vol du module lunaire pour lui éviter des rochers dangereux et ne disposait plus que de 15 secondes de réserve quand il a posé le vaisseau. Mais quand on doit le faire avec une sonde automatique, pratiquement impossible à piloter à distance depuis la Terre, en raison du délai de 2 secondes pour un aller-retour des communications avec la Lune, il faut des ordinateurs de bord très sophistiqués, capables d'interpréter les images et mesures pour effectuer ce choix. Et de ce point de vue, les cibles actuelles sont bien plus complexes que celles de la première conquête lunaire, où par prudence on choisissait des zones plates, présentant le moins de risques, comme les missions Apollo qui se sont posées sur des mers lunaires, qui sont des grandes plaines basaltiques. Même si vues de plus près, elles sont criblées de petits cratères et encombrées de rochers éjectés par les impacts d'astéroïdes. De nos jours, c'est le retour des astronautes sur la Lune pour des séjours de longue durée qui est visé, à terme, et c'est pourquoi on s'intéresse à la région du pôle sud, car le fond de certains de ces cratères, plongé dans l'ombre en permanence, offre 2 avantages. D'une part, mettre les astronautes à l'abri du rayonnement solaire, qui est très dangereux sur des temps longs, et d'autre part, y trouver des réserves de glace très utiles pour alimenter les astronautes en eau vitale, ainsi qu'en oxygène, et peut-être à terme produire le carburant nécessaire pour repartir dans l'espace. Or, quand on examine la Lune à l'œil nu, on remarque facilement que le sud est plus blanc que les mers grises. Il suffit d'utiliser une paire de jumelles ou bien mieux un petit instrument d'astronomie pour constater qu'il est extrêmement accidenté, criblé d'un enchevêtrement de cratères. Donc des reliefs à forte pente, des falaises et des rochers, tous les ingrédients pour rendre un atterrissage très périlleux. IM-1 visait le fond d'un petit cratère de 24 km nommé Malapert A, à environ 300 km du pôle sud, et on trouve sur Internet, par exemple sur Wikipédia, des photos de cette région qui montrent à quel point elle est tourmentée.
Et un autre accident sur Mars.
Alors la dernière fois, j'avais parlé de l'atterrissage en catastrophe du petit drone hélicoptère Ingenuity lors de son 72e vol du 18 janvier dernier. Elle annonce le 25 janvier par la NASA de l'arrêt définitif des vols suite aux dégâts constatés. En effet, une photo prise par sa propre caméra montrait l'ombre d'une pale visiblement très endommagée. Mais l'accident a été bien plus grave, car une nouvelle photo prise cette fois par le rover Perseverance le 25 février, qu'on trouve facilement sur Internet, montre qu'une des pales est carrément arrachée et gît sur le sol martien à 15 mètres de l'hélicoptère.
Une nouvelle sur le spatial européen qui progresse à la vitesse d'un bateau.
Lors des dernières chroniques, j'avais déploré les retards pris pour le premier vol de test de la nouvelle fusée Ariane 6 de l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui est maintenant prévue en juin. Une étape a été franchie le 10 février avec le départ du Havre du navire transportant les éléments du lanceur qui doivent être assemblés sur le pas de tir de la base de Kourou en Guyane après une traversée de l'Atlantique d'une dizaine de jours qui s'est terminée mercredi dernier. Ce nouveau bateau de transport mis en service en 2022, le Canopé, démontre l'implication de l'ESA dans la réduction des émissions de CO2 par l'industrie spatiale, car depuis l'été dernier, il est équipé de 4 voiles lui permettant de réduire en moyenne de 30% l'utilisation de sa propulsion diesel, donc d'autant son empreinte carbone. Si nos auditeurs vont voir des photos de ce navire, ils constateront qu'il ne s'agit pas de voiles traditionnelles, mais de dispositifs high-tech constitués d'ailes verticales rotatives de 36 mètres de hauteur.
Et pour finir, un cocorico pour une nouvelle découverte française sur une lune de Saturne.
Effectivement, cette découverte a été publiée dans la prestigieuse revue Nature du 8 février par une équipe de l'Observatoire de Paris, et plus précisément de l'IMCCE, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'unité de recherche spécialisée dans les calculs du mouvement des astres et des phénomènes particuliers, comme les éclipses par exemple. Pour bien comprendre son importance, il faut la replacer dans la perspective de la recherche de vie dans l'univers, donc en s'inspirant des conditions nécessaires à la vie sur Terre, à la recherche de corps susceptibles de présenter de l'eau liquide à leur surface, voire en profondeur, donc des planètes ou leurs satellites. Pour les exoplanètes très lointaines de nous, ce sont de gros télescopes, comme par exemple le JWST, le James Webb Space Telescope, en service dans l'espace depuis juin 2022, qui essaient d'analyser finement la composition de leur atmosphère. Pour notre système solaire, l'exploration par des sondes avait déjà permis de sélectionner 4 endroits privilégiés. Bien entendu, Mars, où les orbiteurs ont montré des coulées de boue récentes et qui fait l'objet du plus grand nombre d'explorations. Mais on a eu la surprise avec les sondes Voyager de découvrir dans les années 1980 que le satellite Europe de Jupiter possédait un océan subglaciaire, c'est-à-dire sous sa couche de glace de surface qui est une sorte de banquise. Ce qui a été confirmé en 2016 par le télescope Hubble qui a observé l'existence de panaches éjectées, un peu comme des geysers. Il a fallu du temps pour comprendre comment c'était possible pour un objet si froid car très éloigné du Soleil, avant de comprendre que ce sont les déformations subies sous l'influence de la gigantesque planète, ce qu'on appelle les effets de marée, qui pouvaient réchauffer ce satellite d'une taille comparable à notre Lune. Pour faire simple, c'est analogue à une balle de caoutchouc que l'on malaxe et qu'on sent s'échauffer dans notre main. Idem pour Encelade, un satellite de Saturne bien plus petit, environ 500 km de diamètre, soit à peu près un septième de notre Lune, dont Voyager 2 a révélé la surface glacée, puis en 2004, la sonde Cassini qui a observé des geysers éjectant de l'eau salée à plus de 200 km d'altitude. Et enfin Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter et de tout le système solaire, une fois et demie notre Lune en diamètre, également doté d'un océan subglaciaire, comme l'ont montré les observations de la sonde Galileo dans les années 1990. Les lunes glacées de Jupiter font d'ailleurs l'objet de la mission JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, de l'ESA, lancée en avril 2023 pour arriver dans le système jovien en 2031 et qui doit plus particulièrement s'intéresser à Ganymède, complétée par la mission Europa Clipper de la NASA, qui, comme son nom l'indique, vise principalement Europe et doit être lancée en octobre pour arriver à Jupiter en 2030. La découverte de l'IMCCE vient ajouter un cinquième nom à cette liste d'objets du système solaire contenant de l'eau liquide, Mimas, un petit satellite de Saturne d'environ 400 km, bien reconnaissable à un énorme cratère d'impact de 130 km de diamètre, qui lui donne une petite allure de la fameuse étoile de la mort de la saga Star Wars. L'équipe de chercheurs avait déjà évoqué l'hypothèse d'un océan subglaciaire en 2014 pour l'un des deux modèles théoriques de la structure interne du satellite pouvant rendre compte de ces mouvements tels qu'observés par la sonde Cassini, mouvements qui sont le domaine d'étude de l'IMCCE. En particulier, ce qu'on appelle la libration, une sorte d'oscillation du satellite par rapport à la planète à laquelle il présente toujours la même face du fait de sa rotation synchrone, comme notre Lune. La Lune aussi possède un mouvement de libration qui la fait osciller lentement de droite à gauche par rapport à la Terre, nous révélant un peu plus que la moitié de sa surface. Sauf que les librations de mi-masse ne peuvent s'expliquer que par l'existence d'un océan à environ 20 ou 30 km sous la surface glacée, comme l'ont démontré les toutes dernières modélisations réalisées par l'IMCCE, qui semblent indiquer aussi que cet océan n'a pu se former que très récemment à l'échelle géologique, il y a entre 5 et 15 millions d'années. Nous voici donc avec un nouvel endroit intéressant à visiter quand des missions spatiales repartiront en direction du système saturnien, la seule définie pour le moment étant Dragonfly, en français Libellule, de la NASA, prévue pour 2028 et devant larguer en 2034 un gros drone dans l'atmosphère de Titan, un autre satellite intéressant avec son épaisse atmosphère riche en méthane et ses lacs et rivières d'hydrocarbures liquides.
Alors c'était les actuels maintenant pour le thème de la semaine, Michel, le calendrier et l'astronomie.
Alors quelle meilleure occasion qu'un 28 février, veille d'un 29 février qui n'est présent exceptionnellement que tous les 4 ans, pour parler du calendrier. Plus précisément, j'aimerais montrer à nos auditeurs à quel point les calendriers sont liés à l'astronomie et aux phénomènes célestes. Lorsque j'intervenais avec le planétarium dans les écoles, collèges ou lycées d'Aquitaine, j'avais l'habitude de dire aux élèves que le calendrier, c'est entièrement de l'astronomie. Et pourtant, en regardant l'historique des chroniques, il semble que je n'ai abordé complètement ce sujet qu'à deux occasions, depuis les presque 10 ans qu'existe notre rendez-vous mensuel, commencé en septembre 2014. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un calendrier ? Si nos auditeurs examinent leur calendrier 2024 de la Poste ou des pompiers, par exemple, ils pourront voir qu'on y trouve le numéro de l'année, le décompte des jours auquel on donne des numéros et des noms, par exemple le jeudi 26 janvier, et les fêtes civiles ou religieuses définies certains jours. Le 26 janvier, c'est par exemple la Sainte-Paul, date que j'ai choisie car c'était la fête de ma mère, qui s'appelait Paulette. Pour le numéro de l'année, c'est très simple. On prend un point de départ symbolique et on compte les années écoulées depuis. Pour les chrétiens, l'année 1 est celle de la naissance du Christ, le 25 décembre de l'année 753 du calendrier romain, du moins tel que défini plus de 500 ans après, en 525, par le moine Denis le Petit, à la demande du pape Jules Ier, qui souhaitait établir un tableau de la date de Pâques sur un siècle, date dont la règle de calcul avait été définie pour toute la chrétienté 200 ans plus tôt par le concile de Nicée. Mais on sait aujourd'hui que Denis le Petit s'est trompé de plusieurs années, ce qui est démontré par les travaux d'historiens basés sur la référence au règne d'Hérode Ier le Grand dans la Bible, qu'on arrive à situer précisément dans le temps avec un phénomène astronomique, une éclipse de lune qui a eu lieu peu avant sa mort. Et c'était 4 ans avant la prétendue naissance de Jésus. Pour les musulmans, le calendrier commence avec l'Hégire, le départ de Mahomet de la Mecque vers Médine, en 622 dans le calendrier chrétien. Pour les juifs, le point de départ du calendrier serait la création du monde d'après la Genèse, calculée comme moins 3760 pour les chrétiens. Et ça explique que les années ne correspondent pas du tout dans ces trois calendriers. Dans le calendrier musulman, 2024 se partage entre l'année 1445, puis 1446 à partir du 8 juillet. Et pour l'hébraïque, 5784, puis 5785 à partir du 3 octobre. Il existe des cas bien plus compliqués, comme les Égyptiens, qui recommençaient le décompte des années 1 chaque fois qu'un nouveau pharaon montait sur le trône. Ce qui complique beaucoup pour les historiens la correspondance des dates d'événements de l'Antiquité égyptienne avec notre calendrier. Pour l'année et les jours, on trouve deux phénomènes astronomiques. La journée, avec l'alternance jour-nuit, est le résultat observable de la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. Pour être précis, c'est sa rotation synodique, c'est-à-dire en prenant le Soleil comme repère. L'année est la durée de la révolution complète de la Terre sur son orbite autour du Soleil. C'est un phénomène lent qu'on ressent notamment par le changement des saisons et les cycles biologiques. Les feuilles des arbres, l'apparition des fleurs et des fruits, la reproduction des animaux par exemple. Mais dont la durée n'est pas si facile que ça à mesurer. Pour simplifier, disons qu'on peut se baser sur les solstices, comme l'ont fait les Égyptiens il y a plus de 5000 ans en observant l'étoile Sirius dans la période du solstice d'été. On sait que l'année dure à peu près 365 jours et un quart, c'est-à-dire 6 heures. Comme il est plus simple pour nous de compter un nombre de jours entiers dans le calendrier, on comprend qu'en mettant 365 jours, on commet une petite erreur d'environ un quart de jour chaque année. Écart que l'on corrige en ajoutant un jour supplémentaire tous les 4 ans, avec une année bissextile de 366 jours. On évite ainsi que le calendrier ne dérive lentement dans le temps, ce qui provoquerait un décalage des saisons très peu pratique pour les agriculteurs. Par exemple, 2023 n'était pas bissextile, car ce nombre n'est pas divisible par 4, mais 2024 l'est, d'où son 366e jour supplémentaire, demain, le 29 février.
Et les mois et les semaines ?
Alors pour cela, il faut observer un autre phénomène astronomique, le changement d'aspect de la Lune jour après jour dans le ciel, dû à la révolution de la Lune autour de la Terre, ce qui change son éclairage par le Soleil, croissant de plus en plus gros, quartier quand la moitié est éclairée, gibbeuse quand elle est plus grosse, jusqu'à la pleine lune avec le limbe complètement éclairé de face, puis à l'inverse en diminuant jusqu'au dernier quartier, puis un croissant jusqu'à la nouvelle lune, jour où l'on ne peut pas voir la lune dans le ciel. On a de bonnes raisons de penser que ce cycle a été observé par les hommes dès la préhistoire. En 2022, alors que j'étais à Paris pour les rencontres du ciel et de l'espace, je suis allé jusqu'au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye pour voir enfin un objet trouvé en Dordogne, à l'abri Blanchard en 1910. Un petit os gravé, daté d'environ 32 000 ans avant notre ère, et dont l'étude, notamment par la NASA en 1964, semble démontrer qu'il représente ce cycle lunaire sur une période d'environ 6 mois. C'est clair que ce changement d'aspect de la Lune est le moyen le plus simple de compter les jours et qu'il a servi de base à nos calendriers. Un cycle complet, qu'on appelle une lunaison, dure 29 jours et demi, ce qui est bien proche de nos mois. Et dans le cycle, il y a quatre grandes phases bien remarquables. La nouvelle Lune, quand la Lune est invisible dans le ciel car nous sommes du côté plongé dans l'ombre. Le premier quartier, la pleine Lune et le dernier quartier. En divisant le cycle de 29 jours et demi par 4, on trouve environ 7. C'est la semaine. Il y a environ une semaine entre les grandes phases lors d'un cycle lunaire. Dans l'Antiquité, ce nombre de jours coïncidait bizarrement avec le nombre de planètes visibles dans le ciel. En effet, sans lunettes ou télescope, on peut voir 5 planètes dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mais à l'époque, on considérait le Soleil et la Lune aussi comme des planètes, c'est-à-dire des objets qui se déplacent dans le ciel par rapport aux étoiles. Le mot planète vient du grec planetes, signifiant astre errant. 7 jours et 7 planètes, on a donc nommé, par un processus trop compliqué expliqué ici, chaque jour de la semaine avec une planète. Lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, le jour du Soleil. Ce qu'on entend mieux en anglais, Sunday, ou en allemand, Sonntag, qu'en français, dimanche, qui est le jour du Seigneur, en fait, le jour de la messe, pour les chrétiens. Donc même dans les noms des jours, on retrouve de l'astronomie.
Mais pourquoi dans le calendrier, il y a des mois de 30 ou 31 jours et seulement 28 ou 29 pour février ?
Alors au départ, on base le calendrier sur les lunaisons, en définissant des mois alternativement de 29 jours et de 30 jours, ce qui fait en moyenne 29 jours et demi de la lunaison. C'est un système simple, car il suffit de regarder la Lune dans le ciel pour savoir à sa forme quel jour on est dans le mois. Ça se complique un peu quand on veut faire l'année, car il y a 12 lunaisons, donc 12 mois lunaires, par an, mais ça ne tombe pas juste. Parce que 12 fois 29,5, ça fait 354 jours, donc un écart de 11 jours par rapport à l'année solaire. La première solution est de rester sur le rythme lunaire, sans se soucier de l'année solaire. Et c'est le cas du calendrier musulman, avec des années de 354 jours, parfois 355 jours pour compenser les années bissextiles, appelées abondantes dans ce calendrier. Un calendrier qui se décale sans arrêt par rapport au soleil et à notre calendrier. La deuxième solution consiste à essayer de réconcilier le calendrier lunaire et le soleil en compensant les 11 jours, c'est-à-dire à peu près un tiers de mois lunaire, tous les 3 ans environ. C'est le cas du calendrier juif, qui est dit lunisolaire, avec schématiquement des années ordinaires de 12 mois lunaires et des années de 13 mois lunaires, dites embolismiques, dans un cycle de 19 ans, dont 7 embolismiques. La troisième solution, la plus pratique, pour des agriculteurs comme les Romains, c'est de réconcilier le calendrier avec l'année solaire en trichant sur la durée des mois. 11 jours d'écart pour 12 mois lunaires, il suffit d'ajouter un jour à chaque mois, sauf un, d'où les mois de 30 et 31 jours et un mois plus court que les autres qui restent à 29. 6 mois 31 jours, 5 de 30, 1 de 29, ça fait les 365 jours de l'année solaire. Le compte est bon pour les années ordinaires et ça commence à ressembler à notre calendrier. Mais ça n'explique pas encore tout. Pourquoi février de seulement 28 jours et 2 mois de 31 qui se suivent, juillet et août? Pour comprendre cela, il faut revenir à l'histoire de l'évolution du calendrier depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui. Depuis 154 avant Jésus-Christ, le calendrier romain était calendrier lunaire, avec des mois de 29 et 30 jours. Sa particularité, il commençait en mars, qui faisait 30 jours, avec 4 mois ayant des noms particuliers, mars, avril, mai, juin, et 2 en fin d'année, janvier et février, en rapport avec des divinités. Et au milieu, des mois simplement numérotés. Quintilis, le cinquième, qui correspond à notre juillet, Sextilis, le sixième pour notre août, etc. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi les mois de septembre à décembre ont des noms qui font référence à des nombres, 7, 8, 9 et 10, ne correspondent donc plus à leur place dans le calendrier actuel. En 45 avant Jésus-Christ, sur proposition d'un astronome grec, Sosigène d'Alexandrie, Jules César réforme le calendrier en adoptant l'année solaire avec des mois passant de 29-30 jours à 30-31 jours, sauf février. Étant le dernier de l'année, il ne reçoit rien lors de la distribution des 11 jours, qui reste donc lui à 29 jours ou 30 selon que les années sont ordinaires ou bissextiles. Ce terme bissextile nous vient d'ailleurs du calendrier romain, car pour ajouter un jour, on doublait en fait le 24 février avec un 24 février bis. Mais comme les Romains comptaient les jours à rebours, cela se disait bis sextum calendas martias, soit le sixième jour bis avant les calendes de mars. Et bis sextum a donné notre bissextile. Lors de cette réforme, on fait aussi commencer l'année le 1er janvier. Et pour rendre hommage à l'empereur, le nouveau calendrier est baptisé Julien, d'où vient notre... Et on donne son nom aussi au premier mois qui n'en avait pas, et qui devient Julius, d'où vient notre juillet. Et bien sûr, c'est un mois de 31 jours pour honorer l'empereur. Dans ce calendrier, le mois suivant, août, pour nous, avait 30 jours, septembre 31, etc. Une deuxième réforme survient quelques années plus tard, en 9 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Auguste, car on s'était planté en comptant trop d'années bissextiles, un concept nouveau dans le calendrier julien. Pour lui rendre hommage, on baptise Augustus le premier mois sans nom, d'où notre août, encore plus évident avec Auguste des Anglais, et on ne pouvait pas moins faire que lui attribuer aussi 31 jours, à l'égal de Jules. Pour cela, on pique un jour à février, qui se trouve ainsi amputé à 28 jours, 29 les années bissextiles, et pour éviter d'avoir 3 mois de 31 jours de suite, on modifie tous les mois suivants, septembre passant à 30 jours, octobre à 31, etc. Et voilà notre calendrier actuel. Sauf qu'il n'est plus julien, mais grégorien, car légèrement rectifié en 1582 sous le règne du pape Grégoire XIII.
Et en quoi consistait cette dernière modification du calendrier?
Alors c'est pour corriger une petite erreur de calcul. En effet, quand on dit que l'année solaire compte 365 jours un quart, donc 365 jours et 6 heures, c'est un arrondi, car elle est en réalité légèrement plus longue de quelques minutes, environ 365,256 jours, soit 365 jours, 6 heures, 9 minutes et presque 10 secondes. Ça semble dérisoire, mais sur des siècles, ça creuse un écart non négligeable. Car en comptant une année bissextile tous les 4 ans, on ajoute trop de 29 février. Et le calendrier finit par se décaler lentement par rapport à la révolution de la Terre autour du Soleil, donc des saisons. Au bout de presque 1600 ans, l'écart avait atteint 10 jours. Et ce décalage était visible par exemple dans le dicton de l'époque. On disait « la Saint-Barnabé, le jour le plus long de l'année ». Alors qu'il s'agit du 11 juin, 10 jours avant le 21 juin, qui est la date habituelle du solstice d'été, le jour le plus long de l'année. L'erreur correspond en fait à 3 années bissextiles de trop tous les 400 ans. On a donc décidé de ne plus compter comme bissextiles toutes les années de siècle, mais seulement celles dont le numéro de siècle est divisible par 4. Par exemple, 1900 n'était pas bissextile, bien que divisible par 4, mais 19 ne l'est pas. Alors que 2000 était bissextile, car 20 est divisible par 4. Avec ce nouveau calcul, l'erreur ne sera plus que d'un jour tous les 4000 ans environ, ce qu'on pourra corriger peut-être en décidant que les années multiples de 4000 ne seront pas bissextiles, mais nous laissons cette réforme à nos lointains descendants. Je veux juste attirer l'attention sur un effet curieux de la réforme grégorienne du calendrier. Pour le recaler par rapport au solstice, il a été décidé de sauter 10 jours, en passant directement du 4 octobre 1582 au 15 octobre. dans la plupart des pays catholiques. Mais comme cette réforme n'a pas été appliquée partout en même temps, cela a provoqué des décalages de calendrier pendant des décennies. Par exemple, l'Angleterre protestante et son empire ne l'a appliquée qu'en 1752, où il a fallu sauter 11 jours du 2 au 14 septembre. Les calendriers français et anglais sont donc restés décalés d'une dizaine de jours pendant près de 170 ans, et Umberto Eco a utilisé cela dans son célèbre roman « Le pendule de Foucault » pour faire rater un rendez-vous entre des Français et des Anglais. L'un des derniers pays à avoir appliqué la réforme grégorienne est la Grèce, en 1923, où il a fallu sauter 13 jours, du 15 février au 1er mars.
Alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose d'astronomique dans le calendrier ?
Alors, pour finir, je peux suggérer à nos auditeurs de faire une petite observation astronomique dans le calendrier. Il suffit de prendre un calendrier 2024, de la Poste ou des pompiers, par exemple, et compter les jours des saisons. Actuellement, nous sommes en hiver et jusqu'au 19 mars, car le 20 mars sera l'équinoxe de printemps qui marque l'entrée dans cette saison. Depuis le 1er janvier, cela fera au total 79 jours, 31 en janvier, 29 en février et 19 en mars. Mais nous étions déjà en hiver fin décembre 2023, ce qu'on peut compter sur le calendrier 2024, du 21 décembre, solstice d'hiver, au 31, soit 11 jours, donc un total de 90 jours pour l'hiver. De même, on comptera 90 jours en automne, du 22 septembre, équinoxe d'automne, jusqu'au début de l'hiver. Soit au total 180 jours pour aller de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps. Et pour l'autre moitié de l'année, on peut aussi compter les jours du printemps et de l'été sur le calendrier ou faire tout simplement la soustraction. 366 jours de l'année 2024 moins 180, ça fait 186 jours de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne. Mais cet écart de 6 jours est difficile à comprendre si on imagine le phénomène astronomique. En un an, la Terre parcourt une orbite elliptique autour du Soleil, donc la moitié d'un équinoxe à l'autre. Alors pourquoi les deux durées ne sont-elles pas identiques ? L'explication vient d'une règle de mécanique céleste qu'on appelle la deuxième loi de Kepler, parmi les trois lois qui définissent le mouvement des planètes autour du Soleil, découverte au début du XVIIe siècle par l'astronome allemand Johannes Kepler. Pour faire simple, la deuxième loi indique que plus la Terre ou une autre planète est proche du Soleil, plus elle se déplace vite sur son orbite. La Terre parcourt donc plus vite la moitié de son orbite en automne et hiver que l'autre moitié au printemps et été, car elle est plus près du Soleil pendant cette période de l'année. En effet, c'est toujours début janvier que la Terre passe au périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil. Pour être précis, en 2024, c'était le 3 janvier à 1h38 du matin. En plein hiver, ce qui nous montre bien que les saisons n'ont rien à voir avec la distance de la Terre au Soleil, mais proviennent de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, comme nous l'avons déjà expliqué ici, à de nombreuses reprises. Et donc, comme je l'avais annoncé au début, notre calendrier, c'est entièrement de l'astronomie.
Et maintenant, on va passer au ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org. Pour avoir des cartes du ciel correspondantes, difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour mars, je pense, ce soir ou demain matin. Comme on approche de la fin de l'hiver avec l'équinoxe du 20 mars, où le soleil restera 12 heures dans le ciel, les jours ont très nettement rallongé, avec un soleil qui se couche en ce moment vers 18h45 et la nuit qui arrive un peu avant 20h. Fin mars, ce sera encore plus tard, avec le coucher vers 19h30 et la nuit vers 20h30. Et encore une heure plus tard, à partir du dimanche 31, car nous serons repassés en heure d'été. En cette fin d'hiver, les constellations de l'automne disparaissent dès le début de nuit à l'ouest, avec Pégase en train de se coucher, pendant que la constellation vedette du ciel d'hiver, le chasseur Orion, domine bien haut, plein sud, avec ses trois étoiles bien alignées formant sa ceinture, qu'on surnomme parfois les rois mages, car ils apparaissent dans le ciel en début de nuit vers Noël. Puis avec les deux étoiles brillantes qui forment ses épaules, de cette silhouette humaine, et les deux autres ses pieds, on a une figure qui peut évoquer un papillon. Tout autour, les étoiles les plus brillantes forment ce qu'on appelle le grand jet de l'hiver, permettant de situer toutes les constellations principales de la saison. En commençant devant Orion par Aldébaran, du taureau, puis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Capella, du cocher, Castor et Pollux, des gémeaux, Procyon, du petit chien, Sirius, du grand chien, l'étoile la plus brillante du ciel, et pour finir par Rigel, son pied gauche, et la barre du jet formée par ses épaules, Bellatrix et Bételgeuse. Vers l'est, le ciel du printemps commence à se montrer, avec la figure bien reconnaissable du lion tout juste levé. Fin mars, la situation aura évolué avant qu'en début de nuit, Pégase déjà couché, Orion à demi descendu vers l'ouest pour se coucher, et en symétrique, le Lion déjà à la même hauteur au sud-est, suivi des autres constellations du printemps. Côté planète, le choix est très limité, car seul Jupiter est visible le soir au sud-ouest, encore bien haut dans le ciel. Il faut donc en profiter pour l'observer tôt dans la nuit ou tôt dans le mois, car fin mars, elle sera beaucoup plus basse dès le début de la nuit. Avec une simple paire de jumelles, on peut observer ces quatre satellites galiléens, car découverts par Galilée en 1610, dont les positions varient en quelques dizaines de minutes. On pourra distinguer Mercure au crépuscule en milieu de mois. Pour les leftos, on peut apercevoir en début de mois la très brillante Vénus dans les lueurs de l'aube. Mais cela ne durera pas, car si elle se lève en ce moment presque une heure avant le soleil, ce sera de moins en moins tôt au fil des jours. Et comme chaque mois, la Lune s'invitera près des planètes en produisant des conjonctions, mais il n'y en aura qu'une observable. Le mercredi 13, le croissant se rapproche de la brillante Jupiter, environ la largeur de deux doigts bras tendus. Enfin, je signale une observation peut-être plus difficile, dont je ne sais pas dire à ce jour à quel point elle pourra être intéressante. En effet, comme tous les 71 ans environ, la comète périodique 12P Ponce-Brooks, découverte en 1812, nous rend visite. Elle est observée par les astronomes depuis plusieurs mois et devient de plus en plus grosse et lumineuse au fur et à mesure qu'elle se rapproche de nous et du Soleil. Son passage au Périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, est prévu pour le 21 avril. Mais en avril, elle se sera aussi beaucoup rapprochée du Soleil dans le ciel, ce qui rendra son observation plus difficile, car déjà basse vers l'ouest quand la nuit sera suffisamment noire. Je pense donc que c'est en mars qu'on pourra l'observer le mieux, et notamment en début de mois, avant que la Lune ne devienne trop gênante pour apercevoir un objet aussi faible et diffus. Donc plus tôt avant le premier quartier du 17 mars. Vu sa luminosité actuelle, je crois qu'elle pourra devenir visible dans une paire de jumelles et pourrait même devenir perceptible à l'œil nu dans un ciel bien noir. Elle se situe en début de nuit vers l'ouest, pas très haute, une vingtaine de degrés au-dessus de l'horizon, soit environ deux fois la largeur de la main bras tendue. Sur la page Ciel du mois de notre site web, une carte donne sa position par rapport aux constellations jour après jour. Et pour finir, j'annonce notre prochaine chronique qui est prévue le mercredi 27 mars. Et j'y parlerai peut-être des observations du ciel que je tenterai la semaine prochaine à l'étranger et qui n'ont rien de sûr vu la météo de ces dernières semaines là-bas et leur relative paresse du soleil.
Vous avez un indice pour nos auditeurs ?
Alors on doit pouvoir deviner de quoi il s'agit car ma destination est située au-dessus du cercle polaire. Pour finir, si je peux me permettre d'empiéter sur la rubrique cinéma, car je suis amateur de films et de romans de science-fiction, je rappelle à nos auditeurs que c'est aujourd'hui la sortie en France du film Dune 2 de Denis Villeneuve, dont la première partie, sortie en septembre 2021, était très réussie, selon moi, malgré quelques petites infidélités au roman culte de Frank Herbert. D'après les critiques que j'ai entendues ce matin, la deuxième partie serait encore meilleure.
Donc on remercie Michel Favret donc pour sa 108e chronique astro. On rappelle votre site hein, www.constellationsetgalaxies.org au pluriel.
Constellations et galaxies.
Et galaxies, voilà, faut pas oublier les S.
Oui, alors on trouve facilement, il y a un menu en haut à droite dans lequel il y a une rubrique astronomie où on trouve le fameux ciel du mois dont je viens de parler avec les cartes, etc. Et on trouve aussi toutes les chroniques O2 Radio depuis la première, hein, de septembre 2014, dans l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire la plus récente en premier. Et il y a un petit résumé des sujets abordés dans la chronique, ce qui permet aux auditeurs que ça intéresserait de piquer, si je peux dire, des chroniques qui les intéressent plus particulièrement.
Ouais, c'est plus facile pour eux de s'y retrouver. Donc voilà, on rappelle le site www.constellationsetgalaxies.org. Merci pour cette 108e chronique astro.